Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. Donc c'est Amnesty International Évreux pour sa dernière émission du mois de mars, puisqu'on est le 26 mars. Et pour l'animer avec moi ce soir, il y a Mina.
Bonsoir.
Il y a Françoise.
Bonsoir.
Et puis on a un nouveau technicien ce soir, on inaugure, on a un nouveau technicien, il s'appelle Jean-Luc.
Hello, hello.
Voilà. Donc, pour, comme d'habitude, beaucoup de sujets. On va vous parler de, du Yémen, du conflit en Yémen. On va vous parler de droits des femmes, puisque nous sommes toujours dans le mois des droits des femmes, puisque on vous rappelle que la journée mondiale, c'était le 8 mars dernier. On a fait une émission spéciale, d'ailleurs. Et donc, on va vous parler toujours des droits des femmes. On va vous parler, bien sûr, de nos informations locales. Enfin, bref, restez à l'écoute jusqu'à 20h ce soir, puisque nous avons, comme d'habitude, beaucoup de choses à vous dire. Et pour commencer à vous, cette introduction d'émission, on enchaîne aujourd'hui avec Françoise qui est à côté de moi, on enchaîne Amnesty avec Amnesty, puisqu'on était aujourd'hui au Forum des droits humains organisé par Amnesty Haute-Normandie, et ça s'est tenu aujourd'hui à Rouen, toute la journée, avec beaucoup d'intervenants sur différents thèmes autour de l'exclusion. Et le thème c'était quoi, Françoise? Exclusion.
L'exclusion.
Et la pauvreté.
Et la pauvreté, oui.
La solidarité contre l'exclusion, pour être précis. Oui. Voilà, la phrase exacte. Donc, beaucoup d'intervenants, dont l'ancienne présidente d'Amnesty France, Geneviève Garrigos, et puis des sociologues, des philosophes, enfin des gens qui ont dit des choses passionnantes. Avec Françoise, on est rentré tout à l'heure en se disant, effectivement, c'était très intéressant et très enrichissant. Et ça donne à la fois à réfléchir et ça donne aussi envie d'agir quand on va à ce genre de choses,
bien sûr.
Ce genre de réunions. Donc félicitations à toute l'équipe organisatrice, à commencer par Thierry.
Ah oui, Thierry qui avait organisé ça de bonne maître. Hein.
Voilà. Oui. Et donc, nous, il y a surtout deux intervenants, enfin, parmi les différents intervenants de la journée, il y a deux personnes qui nous ont bien marqués avec Françoise. Et alors moi, je vais vous parler de... Je commence et puis tu complètes après.
Voilà, voilà.
Je vais vous parler de l'intervention d'un philosophe qui s'appelle Guillaume Leblanc. Et qui nous a parlé, alors je vais vous faire un tout petit résumé bien sûr de son intervention, hein, mais qui nous a parlé du fait d'être audible et visible pour faire respecter ses droits. Et c'est vrai que c'est des questions qu'on ne se pose pas trop, nous quand on parle de défense des droits humains, et on vous en parle régulièrement sur l'antenne de Principe Actif, mais on ne se pose pas trop ce genre de questions. Et il expliquait, alors par exemple, je vais vous citer une de ses déclarations, que la démocratie, est minée, quand on parle de droits humains, on parle toujours de démocratie, hein, c'est un couple indissoluble, la démocratie est minée par toutes les voix de faible ampleur. Et qu'est-ce qu'il entend par les voix de faible ampleur? Eh bien, c'est les gens dont, dans la vie quotidienne, on ne tient pas vraiment compte. Et il a cité un exemple que moi j'ai trouvé frappant. Et il a dit, par exemple, vous avez rendez-vous chez le médecin, même si vous ne connaissez pas la personne que vous allez rencontrer, vous savez que c'est un médecin, vous allez être appelé par la secrétaire quand ça va être à vous de passer dans le cabinet, et vous avez déjà l'oreille qui va la considération pour la personne, et donc votre oreille va déjà être disponible pour l'écouter. Et pour prendre en considération ce qu'il va vous dire. Bien sûr, il va vous parler de votre propre santé, mais c'est déjà quelqu'un qui, au niveau de ce qu'il va vous dire et de ce que vous allez entendre, ça aura une importance importante pour vous. Sa personne aura une importance importante pour vous. Et que donc, en fait, l'audition et l'ouïe, le fait d'écouter et de voir la personne, c'est déjà dans votre tête quelque chose qui a une importance évidente. Vous allez croiser un SDF dans la rue, eh bien, vous n'allez pas l'écouter, dans la majorité des cas. Vous n'allez pas l'écouter et votre cerveau va en fait être programmé pour même éviter de le voir. Et que donc, il va faire partie du paysage, en fait. Pourtant, que ce soit le médecin qui va vous soigner ou que ce soit un SDF dans la rue, bien sûr, dans votre vie quotidienne, ça n'a pas forcément les mêmes conséquences, mais ce sont deux êtres humains. Et à ce titre-là, ils ont effectivement exactement la même importance en tant qu'être humain. Donc il faut se poser la question, est-ce que j'écoute les autres? Et est-ce que je donne de l'importance à ces voix, ce qu'il appelle les voix de faible ampleur? Et c'est ces voix-là qui sont fondamentales quand on défend les droits fondamentaux. Donc il a dit plein d'autres choses par rapport à tout ça, mais c'est vrai que c'était quelque chose de, qui pose question et que moi j'ai trouvé particulièrement pertinent. Et il y a donc Françoise qui voulait vous dire
oui, moi je voulais vous parler d'autres... de l'intervention de Geneviève Garrigos. Geneviève Garrigos a été la présidente d'Amnesty International jusqu'en 2016. Et cette dame-là est intervenue en nous parlant tout d'abord du délit de solidarité. Vous avez peut-être entendu que quand le problème des migrants dans les Alpes de Haute-Provence, et vous savez peut-être qu'une des membres d'Amnesty a été portée en jugement pour délit de solidarité puisqu'elle avait aidé des migrants. Voilà. Et Geneviève Garrigos disant, eh bien, c'est inadmissible qu'il y ait ce délit de solidarité. Et donc, la Cour constitutionnelle devra certainement émettre un arrêté à ce sujet.
Il y a déjà un jugement qui a été rendu en disant que c'était un délit qui ne devrait pas exister, mais c'est un jugement qui était très timoré par rapport à ce délit qui existe toujours dans le droit français.
Et puis ça devient la mode. Délit de solidarité, délit de manifester.
Oui, c'est vrai. Oui, d'accord, on t'a coupé la parole, oui. François.
Non, mais elle a continué aussi donc, en parlant de la solidarité. Et elle a dit, Amnesty s'occupe d'une solidarité internationale. C'est une approche non pas méconique, mais chacun a son rôle par rapport aux autres. Toute personne est nécessaire à l'humanité. Donc, notion d'interdépendance entre les hommes et égalité en droit. Elle a aussi parlé, elle a aussi prononcé ceci qui est important à mon égard. Enfin, c'est un cheminement de l'humanité qui est garanti à chaque être humain. Ce n'est pas une question de foi. Chaque fois que les droits entravent le politique, ils sont de trop. Ce n'est pas une question de foi. C'est un cheminement de l'humanité qui est garanti à chaque être humain. Oui. Donc, charité, aumône, opposée à solidarité. Bon, elle a défendu ces thèmes-là. Enfin, voilà. Oui. Bon, mais son intervention était vraiment très pertinente.
Oui, elle a dit, enfin, je me permets juste de faire un petit commentaire sur ce que tu viens de dire. Elle a dit qu'effectivement, la charité, c'était une forme d'empathie par rapport à l'autre. Effectivement, on va lui rendre service sur un point bien précis, en lui faisant, entre guillemets, la charité, que ce n'était pas incompatible avec la lutte pour l'égalité des droits, mais qu'effectivement, on ne s'adressait pas, c'était pas la même démarche, on n'agissait pas envers la personne de la même façon quand on lui fait, entre guillemets, la charité, ou quand on lutte pour qu'on puisse effectivement défendre ses propres droits. Donc ce sont deux démarches qui ne s'opposent pas, mais qui sont très différentes l'une de l'autre. Ce qui est important, c'est bien évidemment le respect des droits de tout le monde à travers le monde et tout le temps. Donc si on peut résumer ça comme ça. Elle a aussi, ce qui était aussi parlant quand Geneviève est intervenue sur le fait de dire que la solidarité, puisque le terme de son intervention, je vais reprendre là aussi le titre exact, c'était la solidarité, une valeur universelle, elle a bien précisé aussi que la solidarité devait dépasser les notions de classe sociale, de regroupement d'un certain groupe d'individus, de congrégations religieuses, enfin, etc. Et que là, effectivement aussi, l'universalité des droits s'imposait à chaque fois et qu'on ne peut pas défendre les droits que d'une certaine catégorie sociale donnée, puisque si on le fait, c'est nier les droits des autres, de ceux qui ne font pas partie de cette catégorie sociale donnée. Voilà. Donc ça, c'était une notion importante. Enfin bref, tout ça pour dire que si vous n'y êtes pas allé aujourd'hui au Forum à Rouen, eh bien, c'est bien dommage, parce que c'était très enrichissant. Et que, bon, je ne sais pas si ce sera renouvelé encore l'année prochaine. C'était le troisième forum qui était organisé par Amnesty Haute-Normandie.
Il le ferait peut-être dans 2 ans.
Voilà. Mais que, bon, de toute façon, voilà, je pense qu'on sera amené aussi à réévoquer certains thèmes qui ont été abordés dans ce forum lors de prochaines émissions. Donc, restez à l'écoute de nos émissions. On vous en reparlera. Et il y avait, je crois,
Mina
qui voulait vous dire. Quoi donc, Mina ?
Je vais vous parler du conflit au Yémen. Donc, je vous reporte l'actualité du site amnesty.fr où vous pouvez vous informer sur les avancées ou les cas qui stagnent dans le monde au niveau de la défense des droits humains. Alors, au Yémen, 4 ans après le début du conflit, les populations continuent de subir des souffrances inimaginables. Les pays européens, notamment la France, sont mis en cause. Depuis le début des bombardements du Yémen, par la coalition menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis en 2015, nous avons accueilli des informations sur l'éventail terrifiant de crimes perpétrés par toutes les parties au conflit, tant les forces du gouvernement yéménite que celles de la coalition et ses alliés, ou encore les forces des Houthis et leurs alliés. Après 4 ans d'effusion de sang dans le pays, le plus pauvre du monde arabe, les Yéménites ne peuvent plus supporter les conséquences humanitaires catastrophiques de la guerre. La communauté internationale doit redoubler d'efforts en vue de faire en sorte de protéger les civils, de lever les obstacles à l'aide humanitaire et les restrictions arbitraires des importations de biens première nécessité et de mettre fin à l'impunité pour les crimes de guerre et les autres atteintes. Attaques aveugles, détentions arbitraires, disparitions forcées, tortures, viols, famines, ces agissements en sont des exemples à la fois marquants et terrifiants. Trop, c'est trop. Le nombre de victimes au Yémen explose et la situation humanitaire s'aggrave de jour en jour. Et pourtant, plusieurs États occidentaux, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, continuent de fournir des armes aux membres de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, en dépit des éléments accablants prouvant que ces armes ont été utilisées pour commettre des crimes de guerre. Ces armes sont utilisées dans ce conflit de manière avérée, même si les autorités françaises ne cessent, en particulier depuis l'affaire Khashoggi, de démentir l'importance des ventes d'armes françaises. Seule une poignée d'États, parmi lesquels les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark, la Finlande et la Suisse, a suspendu les ventes d'armes. Les États occidentaux doivent immédiatement mettre fin à la vente d'armes aux parties au conflit. Ils doivent faire passer les droits humains, les vies de millions de civils yéménites et leurs propres obligations légales avant les lucratives ventes d'armes. En France en particulier, face à l'opacité du gouvernement sur les ventes d'armes, les parlementaires français doivent se mobiliser et agir en responsabilité pour que ce dernier rende compte de ses transferts d'armes, d'équipements connexes et de prestations d'assistance technique. L'enjeu est considérable. Il s'agit de donner l'assurance aux Yéménites et aux Français qu'à aucun moment, les transferts français n'ont pu servir à commettre ou à faciliter des violations graves du droit international humanitaire et que cela n'arrivera jamais, qu'il s'agisse d'attaques aériennes, au sol ou via le blocus naval imposé au Yémen.
Vous avez le pouvoir d'agir sur des sujets graves de manière simple et efficace. Je vais vous expliquer. Depuis le soulèvement de 2011 en Égypte, plusieurs milliers de personnes ont été tuées ou blessées par la répression violente du gouvernement. Nous savons aujourd'hui que la France a livré des armes à l'Égypte, en particulier des véhicules blindés qui ont été déployés et utilisés en pleine répression. Les ventes d'armes françaises sont un angle mort du débat public. Personne n'a d'informations. À qui vend-on, en quelle quantité, pour quelle utilisation? Ce manque de transparence et l'absence de tout contrôle est inadmissible. Aujourd'hui, il est impossible d'affirmer que la France respecte ses engagements internationaux, c'est-à-dire en ne vendant pas d'armes pouvant être utilisées pour tuer des civils. Les ventes d'armes françaises sont autorisées par le Premier ministre et leur gestion est du ressort du pouvoir exécutif. Or, un contrôle parlementaire sur le sujet est indispensable. Amnesty International lance une action d'interpellation à destination des députés pour que ce qui s'est passé en Égypte ne se reproduise plus ailleurs. Vous avez le pouvoir de faire bouger les choses de manière très simple. En envoyant un tweet aux deux personnes qui ont le plus les moyens d'ouvrir le débat, la présidente de la commission Affaires étrangères et le président de la commission Défense. Vous pouvez d'ailleurs faire la même chose sur Facebook en postant un commentaire sur leur mur. Et si vous n'êtes pas très réseaux sociaux, vous pouvez aussi leur envoyer un mail. Pour vous faciliter la tâche, nous vous proposons des textes à envoyer sur notre page. Vous voyez, rien de plus simple pour faire enfin bouger les choses.
Oui, donc effectivement, vous venez d'entendre un petit son qui était sur le site d'Amnesty, qui vous incite à agir. Alors, on ne saurait que trop vous recommander d'agir. Mina vient de vous parler des ventes d'armes, effectivement, à l'Arabie Saoudite qui finissent au Yémen et qui tuent les civils. Là, c'était un autre exemple, effectivement, mais dans le même sujet, des ventes d'armes faites par la France en Égypte et qui tuent aussi des civils. Et on ne répétera jamais assez, que la France est signataire du traité sur le commerce des armes, signé en 2013, lequel traité interdit officiellement de vendre des armes à des pays qui vont les utiliser pour tirer sur sa population civile. Donc, encore une fois, on ne fait que rappeler aux autorités françaises qui sont priées de respecter leur signature. Sinon, effectivement, signer des traités, ça ne sert à rien. Donc, continuons à interpeller les officiels, c'est ce que disait ce petit son d'Amnesty. Et n'hésitez pas, allez sur le site à amnesty.fr, vous avez toutes les démarches par Twitter, par Facebook ou par mail pour continuer à interpeller nos officiels. Surtout, il ne faut pas se priver. De retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc, désolé pour ce que vous avez entendu. Je vous avais amené un disque de Bruce Springsteen qui s'appelle Hungry Heart, qui est un petit peu ancien. Bruce Springsteen qui a fait beaucoup de concerts en soutien à Amnesty. Mais on vient de se rendre compte que le disque, ben, on a un petit souci technique qui passe pas bien sur la platine. Donc voilà, on a écourté l'épisode musical. Ça fait rien, on est à la radio.
Chers auditeurs du troisième âge, c'est la dernière fois que vous entendez un accordéon pousser la chansonnette sur cette fréquence.
Principe Actif, le mix des cultures. Dans le sud de l'Eure, 95.9, à Évreux, 102.4.
Papa, je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça.
Et retrouvez-nous samedi de 14h à 18h, place du Miroir d'eau. Donc en fait, le groupe d'Évreux va tenir un stand pour la journée mondiale des droits des femmes. Donc le petit communiqué de presse, je vous le lis, comme ça vous allez savoir la teneur. Amnesty International France se mobilise pour la libération de Loujain Al-Atlalou, Iman Al-Najjan et Aziza Al-Youssef, militantes des droits des femmes en Arabie Saoudite, injustement emprisonnées. Le 8 mars 2019, à l'occasion de la journée mondiale des droits des femmes, Amnesty International France se mobilise pour la libération de ces femmes, défenseuses des droits humains en Arabie Saoudite. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont été arrêtées le 15 mai 2018, seulement quelques semaines avant la levée de l'interdiction de conduire pour les femmes, sans aucune inculpation. Le 20 novembre 2018, Amnesty International révélait que plusieurs défenseurs des droits humains, incarcérés, aurait été victime de torture et de harcèlement sexuel. Si le prince héritier Mohamed Ben Salman se présente comme un réformateur pour avoir accordé le droit de conduire aux femmes, cette image contraste grandement avec la répression accrue des voix dissidentes, des défenseurs des droits humains et des personnes qui luttent pour l'égalité des droits pour les femmes. Dans le cadre de sa campagne mondiale Brave, Amnesty International appelle à la libération immédiate de Loujain Al-Atlalou, Iman Al-Najjan et Aziza Al-Youssef qui se sont courageusement battus pour le droit de toutes en Arabie Saoudite. Amnesty International exige qu'elles soient protégées contre toute forme de torture ou de harcèlement. Retrouvez-nous samedi 30 mars de 14h à 18h, place du Miroir d'eau. Vous pouvez nous contacter sur la boîte mail pour avoir plus d'informations. amnesty.evreux@gmail.com.
On compte sur vous.
Voilà, donc on se retrouve samedi en centre-ville d'Évreux et comme je vous disais au début d'émission, on est toujours au mois de mars, donc c'est toujours en référence à la journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Et donc il y a un petit article qui est paru dans une publication d'Amnesty qui dit « Partout dans le monde, les femmes subissent des violences inacceptables ». Alors je vais vous le lire, effectivement, c'est un petit résumé. On va d'ailleurs vous reparler des trois femmes dont vient de vous parler Mina, mais c'est pas grave, et il y en a d'autres. Donc en Iran, par exemple, Nasrin Sotoudeh, que l'on soutient aussi actuellement très vivement, est de nouveau en prison où elle a déjà passé 3 ans, entre 2010 et 2013. Cette avocate, qui a reçu le prix Sakharov pour son travail en faveur des droits humains, est accusée de propagande anti-gouvernementale pour avoir assuré la défense de femmes ayant manifesté pacifiquement contre le port obligatoire du voile. Et c'est pas marqué dans l'article, mais je précise que cette femme a également été condamnée à 148, je crois, coups de fouet. Oui. On en est toujours là, au 21e siècle. En Arabie Saoudite, 3 éminentes défenseurs, donc Mina vient de vous en parler, des droits des femmes sont maintenues arbitrairement en détention depuis mai dernier et risquent d'être inculpées et condamnées à de lourdes peines d'emprisonnement. En Turquie, sous prétexte de l'état d'urgence, de nombreuses ONG ont été fermées, dont l'association VAN, qui lutte contre les violences faites aux femmes. En Égypte, la blogueuse Amal Fati a été condamnée à 2 ans de prison ferme pour avoir dénoncé le harcèlement sexuel qu'elles et tant de femmes subissent quotidiennement. Chaque année, plus de 12 millions de filles sont mariées de force avant l'âge de 18 ans. Ces filles voient leurs droits à l'enfance et à l'éducation volés et leurs perspectives d'avenir réduites à néant. Elles sont victimes de graves atteintes à leurs droits sexuels et reproductifs. Physiquement immatures, elles risquent de mourir lors de l'accouchement ou de subir des lésions qui leur laisseront des séquelles à vie. La pratique des mariages forcés est hélas courante dans de nombreux pays, alors même qu'ils sont interdits par les constitutions de ces pays, comme par le droit international. Au Soudan, Noura Hussein Ahmad a été condamnée à mort pour avoir tué l'homme que son père l'avait forcée à épouser quand elle avait 16 ans et qu'il l'avait violée avec l'aide de 3 autres personnes alors qu'elle refusait de consommer le mariage. Sa condamnation à mort avait suscité l'indignation. Sous la pression, la cour d'appel a décidé de commuer la peine capitale en peine d'emprisonnement, pardon, une punition excessive que les autorités soudanaises doivent réviser. Alors, citation. « Un homme m'a apporté de la nourriture. Le lendemain, il m'a dit que je devais aller chercher de l'eau chez lui. Il a refermé la toile de la tente derrière moi et m'a violé. » Comme en témoigne Arma, dans le nord-est du Nigeria, des militaires nigérians ont infligé à des femmes déplacées ces violences et des atteintes aux droits humains équivalentes à des crimes de guerre. 15 femmes ont déclaré à Amnesty International que dans le seul camp de déplacés de l'hôpital de Barma, elles ont été forcées à des relations sexuelles avec des militaires ou des miliciens en échange de nourriture ou pour garder leur famille en vie. Petit commentaire personnel, on vous avait déjà parlé dans une émission il y a quelques mois de ces femmes qui étaient malmenées au Soudan. Ailleurs dans le monde, la violence envers les femmes et le viol sont souvent utilisés comme une arme de guerre visant à les punir et à les déshumaniser et à détruire à travers elles le groupe auquel elles appartiennent. Le calvaire des femmes ne s'arrête malheureusement pas lorsqu'elles fuient les conflits. Sur la route comme dans les camps, les femmes et les jeunes filles sont particulièrement exposées aux actes de harcèlement physique, verbal et sexuel, comme en témoigne une réfugiée syrienne. Lorsque les gouvernements européens ont fermé les portes aux réfugiés, en tant que femmes, nous étions encore plus exposées aux violations des droits humains commises par les passeurs. Vous ne pouvez pas demander de l'aide ni à la police ni à personne parce que vous êtes illégales. En outre, le manque d'informations adaptées et de femmes interprètes est un obstacle majeur pour dénoncer les sévices qu'elles ont subis. Azadeh, une femme qui a survécu à la violence sexuelle, témoigne. J'ai dû parler de l'abus que j'ai subi en Iran et de l'agression sexuelle dont j'ai été victime en Grèce en présence d'un interprète grec. Il ne me prenait pas au sérieux, il s'est moqué de moi. Une récente enquête menée par Amnesty International dans 8 pays, dont la France, montre que près de 1 femme sur 4 a déjà été victime de violences ou de harcèlement en ligne, souvent de manière très agressive. Parmi elles, Pamela Merritt, militante et blogueuse américaine, a reçu des centaines de menaces sur Internet. Et elle dit « Quand vous recevez 200 menaces de mort, il suffit d'une seule personne qui ait vraiment envie de vous tuer. » Un autre rapport de notre organisation met en évidence que le réseau Twitter ne fournit pas les recours adéquats à celles qui subissent des violences ou des atteintes aux droits humains sur sa plateforme. Mais les menaces et le harcèlement n'ont pas lieu qu'en ligne. Et diverses études montrent qu'une écrasante majorité de femmes ont déjà été confrontées au sexisme dans l'espace public, remettant en cause leur liberté de se déplacer en toute sécurité. Et donc Amnesty conclut, ensemble, mobilisons-nous d'urgence pour mettre fin aux violences faites aux femmes en exigeant un renforcement des législations, l'accès à une vraie justice pour les femmes victimes de violations de leurs droits et la fin de l'impunité pour ceux qui les commettent. Voilà, donc ça me paraissait utile de faire ce petit rappel toujours dans ce mois de défense des droits des femmes. Et il y a Françoise qui voulait vous parler du même sujet.
Oui, je vais vous parler un petit peu des femmes au Maghreb. Les femmes en résistance au Maghreb. Il y a une photo là dans la chronique, je l'ai sous les yeux.
La chronique, c'est le mensuel d'Amnesty France. Oui.
Et qui montre des femmes avec des haut-parleurs et manifestants dans des rues d'Algérie, je pense. Algériennes, tunisiennes, marocaines se saisissent de la Journée internationale des femmes le 8 mars pour réclamer leurs droits. Alors, ici c'est en Tunisie, l'élection présidentielle législative en 2019, la question des droits des femmes sera plus que jamais l'otage du politique en Tunisie. À l'image de cette loi proposant de mettre les femmes et les hommes sur un pied d'égalité en matière d'héritage. Validée par le Conseil des ministres, soutenue par le président en personne, elle n'était toujours pas adoptée fin janvier. Les remous qu'elle crée sur les bancs du Parlement sont à l'image du pays clivé entre tradition et modernité. En Algérie, depuis 3 ans, les violences faites aux femmes sont considérées comme des crimes. Bien que le code de la famille ait été amendé, l'État n'a pas mis en place suffisamment de dispositifs efficaces pour venir en aide aux victimes. Puis, il bride les associations qui essaient de pallier ce manque. Bilan, Nombreuses sont les femmes qui n'osent pas encore passer la porte d'un commissariat, de peur de basculer dans la précarité. Au Maroc, les signaux envoyés sont contradictoires. D'un côté, il a suivi son voisin algérien en adoptant mi-septembre une loi relative à la lutte contre les violences à l'égard des femmes, et le roi Mohamed VI soutient certaines associations où elles trouvent refuge. De l'autre, celles qui ont un enfant hors mariage continuent d'être les parias de la société quand l'avortement peut leur valoir la prison. Des aspirations qui se heurtent au mur du patriarcat. Et donc, dans ces régions-là, accorder des droits aux femmes est soupçonné d'occidentalisation.
Mina, je te passe la parole. Et oui, suite à ce petit dossier sur les femmes, maintenant on va passer en Somalie avec un secret américain bien gardé. Toujours tiré de amnesty.fr, n'hésitez pas à y aller pour savoir les avancées et les actualités des droits humains dans le monde. Des enquêtes médico-légales nous permettent d'attester que de nombreux civils ont été tués lors de frappes aériennes. Des preuves alarmantes puisque sous la présidence de Donald Trump, les frappes américaines en Somalie ont triplé. Le bilan des victimes civiles constatées lors de quelques frappes seulement laisse à penser que le secret qui entoure le rôle des États-Unis dans la guerre en Somalie est en fait un écran de fumée censé leur garantir l'impunité. En effet, nos conclusions contredisent directement la version de l'armée américaine qui se targue de zéro victime civile en Somalie. Cette assertion semble d'autant plus saugrenue que les États-Unis ont triplé leurs frappes aériennes dans le pays depuis 2016, dépassant le nombre de frappes en Libye et au Yémen réunis. Ces frappes aériennes américaines en Somalie ont connu une brusque augmentation après le 30 mars 2017. Comme dans de nombreux autres cas, les habitants ont identifié les victimes comme étant des civils et non des combattants d'Al-Shabaab. Des photos des trois paysans morts et de la zone alentour ont permis à notre service de vérification numérique de localiser précisément le lieu de la frappe. Elle présente également d'autres indices importants tels que des images de terre éventrée et d'un cratère d'un mètre indiquant de puissants explosifs, ainsi que des fragments qui proviennent sans aucun doute d'une GBU-69B, bombe guidée de petit diamètre. Ce type d'engin ne peut être largué que depuis un AC-130 de l'armée de l'air américaine, un avion de combat le plus souvent utilisé en appui aérien, rapproché et non pour des frappes isolées. Alors qu'il n'avait pas été aperçu en Somalie depuis plus de 10 ans, la présence de cet appareil témoigne d'une escalade du conflit. Le commandant des États-Unis pour l'Afrique n'a pas signalé l'utilisation d'AC-130, mais a confirmé avoir procédé à une frappe aérienne dans la région du Bachabel le 12 novembre 2017 vers 3h du matin, affirmant avoir tué plusieurs miliciens. On sait que les forces américaines ont procédé à 76 autres frappes aériennes en Somalie pendant la période étudiée et à 24 frappes au cours des deux premiers mois de l'année 2019. Le bilan des victimes civiles pourrait donc être bien plus lourd. Pour que les Somaliens touchés par des frappes aériennes américaines, il n'existe guère, voire aucune chance d'obtenir justice. Il leur est quasiment impossible de signaler que des membres de leur famille ou de leur village ont été tués ou blessés, étant donné le lieu de ces attaques et les risques qu'ils courraient en termes de sécurité. Le gouvernement des États-Unis ne veille toujours pas à ce que des investigations soient menées sur toutes les allégations crédibles faisant état de victimes civiles, à ce que les responsables présumés des violations des droits humains aient à rendre les comptes et à ce que les victimes et leurs familles obtiennent des réparations. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site.
Quand j'ai lu effectivement l'information sur le site, qui est paru très récemment, ce qui est frappant, c'est qu'en fait, ma connaissance au niveau des médias officiels, personne n'en parle de ces attaques américaines en Somalie. C'est officiellement toujours sous la raison de lutter contre des terroristes qui s'y cacheraient. Mais en fait, on s'aperçoit qu'avec des drones, les Américains tuent des civils, comme Mina vient de vous l'expliquer. Mais personne n'en parle. Et encore une fois, on dira, mais comment ça se fait que les gens qui viennent de Somalie cherchent refuge ailleurs? Faut peut-être se poser les bonnes questions. On va revenir en France et on va vous parler de quelqu'un, je crois pas qu'on vous l'ait jamais parlé dans le cadre de ces émissions bimensuelles là sur l'antenne de Principe Actif. Alors, je vais poser une colle à mes voisines. Bon, on a déjà parlé un peu avant l'émission, donc c'est un peu une fausse colle.
C'est pas du jeu.
Voilà. Est-ce que vous savez qui est Loan? Je crois qu'on prononce comme ça. Loan Torondel.
Non, moi, j'en avais jamais entendu parler.
Bon. Eh bien, c'est un militant français pour la défense des droits humains, puisqu'il fait partie d'une association qui s'appelle l'Auberge des Migrants à Calais. Et à ce titre-là, il aide depuis des années des gens qui sont en demande d'asile ou qui sont migrants à Calais, dans des conditions que l'on connaît, c'est-à-dire très difficiles. Et donc, il est actuellement condamné par la justice française. Il a fait appel, il doit être jugé au mois de mai prochain. Et Amnesty le défend depuis qu'il a été inculpé, puisqu'en fait, il a été inculpé pour avoir publié un tweet sur Twitter, bien sûr. Alors, le tweet, je l'ai sous les yeux, évidemment, c'est pas vraiment radiophonique parce qu'il y a une photo. Mais en fait, sur la photo, on voit un migrant à Calais qui est entouré par deux policiers. Et donc, le tweet explique qu'en fait, il fait moins deux et que ces deux policiers, c'était un matin très tôt, venaient de confisquer la couverture à ce migrant qui, effectivement, proteste contre le fait qu'on lui ait pris sa couverture. Et donc, le migrant dit « mais il fait moins deux ». Et donc, Loan Torondel, par humour, avait rajouté la phrase suivante qui avait été prononcée quelques jours avant par notre président. « Peut-être, mais nous sommes la nation française, monsieur. » Donc voilà, il a été condamné à la suite de ce tweet pour diffamation. Donc Amnesty considère que c'est une atteinte à la liberté d'expression. Et il y a tout un dossier qui figure toujours là sur le site d'Amnesty, amnesty.fr, on ne peut que vous recommander de vous y référer le plus souvent possible. Et il y a une petite interview de lui qui est parue là, assez récemment, et on va fin février, et Françoise et moi, on va vous en faire part. Alors c'est Françoise qui va jouer le rôle de journaliste, qui pose des questions à Loan Torondel, et je vais prêter ma voix à Loan Torondel.
Que s'est-il passé après avoir posté cette photo ?
J'ai reçu un appel sur mon téléphone. Un policier me convoquait au commissariat le lendemain pour une audition libre. Il m'apprend alors que je suis accusé de diffamation. J'en ai presque ri sur le moment car le tweet était humoristique. Mais surtout, il était basé sur ce que j'observais sur le terrain en tant que coordinateur à l'Auberge des migrants de Calais entre l'été 2016 et 2018. À savoir que la police ramasse les couvertures des migrants et que cela se produit tout le temps.
Pourquoi la police leur prendrait-elle leur couverture ?
Pour éviter la formation de campements. Plusieurs fois par semaine, elle vient avec des services de nettoyage et détruit les camps, les tentes. C'est observé, c'est filmé. Pour qu'une enquête soit ouverte à ce sujet, nous avons déposé plusieurs plaintes auprès du parquet de Boulogne-sur-Mer. Bien que nous ayons apporté des éléments probants, aucune suite n'a jamais été donnée à ces plaintes. Aucune enquête n'a été ouverte.
Pourquoi ce tweet ?
Le 1er janvier 2018, j'ai regardé les vœux du président Macron à la télévision. Il déclarait que pour toutes les personnes qui avaient des moments difficiles, la nation française serait là. En l'écoutant, je me suis dit qu'à Calais, les migrants allaient, eux aussi, avoir des moments difficiles. On allait leur retirer leur couverture en plein hiver. Comme ils survivent dehors, ils tomberaient malades. J'ai voulu dénoncer le décalage entre des propos bienveillants du président et cette répression. Dans un tweet, j'ai donc repris la phrase de Macron en imaginant un dialogue fictif entre des policiers et des migrants.
Que s'est-il passé suite à votre convocation au commissariat ?
Le premier choc, c'est l'audition. Voir que des policiers n'étaient jamais poursuivis pour leurs actes, ceux qui les dénoncent pouvaient, à l'inverse, se retrouver entre les mains de la justice, pour un simple tweet.
Pourquoi vous avez poursuivi, selon vous ? Pourquoi vous avoir poursuivi, selon vous ?
D'abord pour discréditer les aidants. Petite parenthèse personnelle, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au délit de solidarité. Bon, je reprends la déclaration de Loan. Clairement aussi pour nous faire partir, car on dérange. Nos rapports, nos alarmes à la presse, le fait de s'exprimer sur la situation empêchent les autorités d'avoir les mains totalement libres, évitant que des migrants ne soient invisibilisés. Invisibilisés, c'est dur à dire ça. Et puis, pardon, je n'ai pas fini. Et puis, c'est pour décourager les personnes de parler. Elles n'oseraient plus si elles savaient qu'elles prennent alors le risque d'être poursuivies. Cela fait peur.
La condamnation pour diffamation le 25 septembre dernier vous a-t-elle fait peur ?
Bien sûr, je ne m'y attendais pas. Nos arguments étaient fiables, les faits avérés. D'ici l'appel en mai 2019, j'ai encore 5 mois à attendre. Des mois à vivre avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, celle d'être reconnu coupable. Pourtant, je n'ai commis aucun délit. J'ai juste voulu défendre les droits des gens.
Cela vous a découragé ?
Bah, pour être honnête, il faut reconnaître qu'un procès est épuisant, stressant. On est face à un juge, un procureur dont on a l'impression que leur but est de démontrer que vous êtes coupable. Mais Amnesty a pris ma défense, alors j'ai reçu beaucoup de messages, de mails de soutien. Des gens m'ont écrit « Accroche-toi, on sait que ce n'est pas facile ». Je suis aujourd'hui étudiant à Poitiers en accompagnement des personnes en difficulté. Je suis engagé avec Médecins du Monde dans un centre de soins à Saint-Denis où je me bats pour l'accès à la santé pour les personnes précaires. Je m'accroche. Voilà. Donc si vous allez sur le site, vous pouvez accéder à l'article. Je ne sais pas s'il y a encore la possibilité d'envoyer des messages de soutien à Loane, si c'est toujours en ligne. Je n'ai pas trop fait attention. Mais de toute façon, si c'est le cas, ne vous privez pas. Encore une fois, il est simplement poursuivi pour diffamation alors qu'il n'a fait que défendre pacifiquement les droits des gens.
Once upon a time, you dressed so fine. You even threw the bombs a dime in your prime. Didn't you? Hell, our people call and say, beware, doll, you're bound to fall. But you thought they were wrong. Kidding you? You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. And look at you now, you don't seem so proud about having to be scrounging for your next meal. You know that you only ever used to get juice and aid. Well, now nobody ever taught you how to live on the street, and now you find that you're gonna have to get used to it. Oh, but you said that you never compromise with a mystery tramp, but now you. We'll be right back.
people and all their pretty people. They're drinking, thinking that they've, that they got it made. Yeah, they're exchanging all kinds of precious gifts and things. You better take that diamond ring and you better, you better pawn it, babe. Oh, you used to be so amused at Napoleon and rags and language that he used. Oh, go to him now, he calls you and you can't refuse. When you ain't got nothing, nothing to lose.
Donc Mida vous a dit le titre, effectivement, et c'était tiré de l'album Chimes of Freedom, qui est sorti en soutien à Amnesty International il y a quelques années. Et c'était Jeff Beck qui faisait cette reprise.
Une semaine difficile, vous méritez aussi de vous divertir. Cette émission, sa modeste ambition est de vous faire oublier vos soucis en vous faisant découvrir des visages nouveaux qui seront associés à des locomotives.
Principe actif.
Et j'aimerais pour commencer que vos applaudissements aillent à ceux qui ont beaucoup travaillé avec nous.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe actif, le mix des cultures.
Eh bien moi, je vais vous parler d'une action urgente pour une dame qui se trouve aux États-Unis. En mars 2018, Valkyria, c'est son nom de famille est tenu secret, une maman de 39 ans, et son fils âgé de 7 ans fuit le Brésil et sollicite une protection à la frontière américano-mexicaine à El Paso, au Texas. Valkyria signale avoir été menacée de mort à plusieurs reprises par des trafiquants de drogue au Brésil. Avec son enfant, elle passe une première nuit en détention. Mais le 17 mars 2018, ils sont séparés de force par la police américaine des frontières. Le 27 mars, un agent des services d'asile estime que les propos de Valkyria sont crédibles. Néanmoins, sa demande d'asile est rejetée. Elle forme alors un recours qu'elle se trouve encore en détention aux mains des services de l'immigration au centre de traitement d'El Paso. Depuis mars 2018, elle n'a pas revu son fils. Donc, on vous demande d'écrire au directeur du bureau local du service de contrôle de l'immigration des douanes des États-Unis. Bon, on vous enverra l'adresse. Si vous avez l'intention de faire cette action, n'hésitez pas à nous mettre un mail amnesty.evreux@gmail.com et là, nous vous donnerons toutes les informations nécessaires pour envoyer votre courrier. Merci beaucoup pour elle.
Voilà, c'est aussi possible de le faire directement par email, hein, de toute façon. Et encore une fois, on rappelle que ces actions urgentes dont on vous demande de participer, elles sont urgentes parce qu'on cherche à défendre les gens très très rapidement. Et on vous rappelle que c'est tous les militants qui s'occupent de ce genre de problématiques de près nous disent toujours qu'elles ont énormément d'impact, le fait de recevoir des centaines, des milliers de lettres dans quelques jours. Ça a toujours énormément d'impact par rapport aux autorités qui se sentent beaucoup moins les mains libres pour continuer à opprimer les gens.
Je vais vous parler maintenant de ma BD, de la rubrique culturelle de ce soir, pour comprendre encore un peu plus les cas. La BD s'appelle « À bord de l'Aquarius ». Elle est éditée chez Futuropolis. Le récit de Marco Rizzo et le dessin de Lelio Bonacorso. Et cette BD a été traduite de l'italien par Hélène Doniol-Renaud. 128 pages en couleur, avec plein de cartes, d'infographies et aussi une mine d'informations. En novembre 2017, les auteurs embarqués à bord de l'Aquarius, vous avez dû en entendre parler, un bateau affrété par l'ONG SOS Méditerranée pour sauver des migrants en mer. Ils donnent la parole à l'équipage du navire, mais aussi aux migrants recueillis. Des témoignages poignants, insoutenables, parfois, qui prouvent, hélas, que si les migrants savent pourquoi ils fuient leur pays, ils ne savent rien de ce qui les attend ensuite. À bord de l'Aquarius, à lire.
Donc, je vais profiter parce qu'il nous reste, oui, il nous reste un petit peu de temps. On va vous donner une, je vais vous lire un petit extrait d'un article qui fait suite aussi au problème des migrants et des réfugiés. On vous en parle souvent, mais ce problème a pris une telle importance chez nous, est devenu tellement crucial chez nous que c'est important d'en parler très souvent. Une bonne nouvelle quand même. Il y a Françoise qui me rafraîchit les souvenirs. La Californie a aboli ou a fait un moratoire, alors on n'est pas trop sûr, vous vérifierez par vous-même, mais enfin c'est soit l'un soit l'autre, la peine de mort, en déclarant qu'on contraire à la Constitution des États-Unis. Donc voilà, alors moi je pense que c'est un moratoire, Françoise pense qu'il y a l'aboli définitivement. Un moratoire, c'est simplement le fait de pas vouloir l'utiliser comme condamnation. L'abolition, c'est effectivement de la supprimer de la législation. On n'en est pas sûr, mais enfin, la Californie va de toute façon, si c'est pas le cas, vers l'abolition, de toute manière, un jour ou l'autre. Donc, ça doit être, il y a plus de la moitié des États américains maintenant, je crois, États américains qui ont aboli la peine de mort depuis qu'elle a été rétablie aux États-Unis en 1976. Il y a plus de la moitié des États américains qui l'ont abolie. Puisque la peine de mort est du ressort de chaque État aux États-Unis. Et voilà, c'est une bonne nouvelle, effectivement. La peine de mort, effectivement, ne sert à rien, si ce n'est à tuer des gens. On vous rappelle que la peine de mort, c'est toujours tuer des gens. Donc, je vais vous lire donc, très rapidement, parce qu'on ne va quand même pas déborder et laisser l'antenne à notre ami suivant pour l'émission du laboratoire, mais il n'est pas encore arrivé, on a encore un peu de temps. Donc ça fait suite à la problématique des migrants et des réfugiés, c'est paru là aussi dans le dernier numéro de la chronique, le mensuel d'Amnesty, et ça raconte de façon un peu humoristique des travaux d'observation qui sont faits par des militants à la frontière franco-italienne, où il y a régulièrement des exactions commises par les forces de l'ordre, du non-respect du droit international en termes de protection des réfugiés et des migrants. Et donc je vais vous lire un petit exemple. Les 12 et 13 octobre 2018, 26 personnes ont été refoulées par la police de l'air et des frontières à Montgenèvre, c'est à la frontière, sans examen individuel de leur situation ni possibilité de demander l'asile. Et 8 mineurs n'ont pas été considérés comme tels. Sans parler des contrôles discriminatoires, des propos menaçants ou insultants proférés par des membres des forces de l'ordre. Des courses-poursuites dangereuses dans la montagne. Régulièrement, des militants d'Amnesty veillent au traitement réservé aux migrants dans le cadre d'une nouvelle mission d'observation. Ce jour-là, deux binômes sont positionnés, donc des militants d'Amnesty, sont positionnés depuis l'aube de chaque côté de la frontière. Le premier, au col Montgenèvre, juste au-dessus du poste de police de l'air et des frontières. Sa présence est d'ailleurs remarquée. Un policier vient même le taquiner. « Quoi ? Amnesty ? Encore ? Vous voulez prendre ma place ? Comme moi, comme ça, moi j'irai faire du ski. » Dans la voiture, Denis et Brigitte Roche sourient. Installés depuis peu dans la région, membres d'Amnesty depuis 1978, ils avaient participé à la mission d'observation en octobre. Ils dirigeaient un labo d'analyse biologique, elle était secrétaire, ils sont désormais à la retraite. Anne et Serge Carayol, l'autre binôme d'Amnesty, ont pris position à l'entrée de Clavière, toujours au niveau de la frontière franco-italienne, où désormais trois fourgons de la police italienne patrouillent sans arrêt. Sur un mur, deux graffitis militants. Un rouge, no borders, plus de frontières. Un noir, ni Salvini, ni Macron. Tant qu'ils habitaient en Loire-Atlantique jusqu'en 2014, les deux observateurs se sentaient très loin de la question des migrants. Depuis leur arrivée dans les Hautes-Alpes, ces enseignants à la retraite sont secoués par des paroles des exilés. Alors ils disent, ces militants, ils sont fracassés dans une situation d'errance, sans projet. Les accueillir est un devoir. Si on ne fait pas ça, on n'est pas des êtres humains. Aujourd'hui, leur rôle est très clair. Être des veilleurs pour garder un œil sur la police. Je ne leur en veux pas. Ils font leur travail, dit Annie. Mais il faut observer si ça se passe correctement. Voilà, et je trouvais que c'était très symbolique de ce qu'on peut faire aussi au niveau d'une organisation comme Amnesty, et ce qu'on fait tous à notre niveau, pour essayer de défendre les droits humains. Bon, on va terminer l'émission en parlant de nos informations locales, mais il y a Mina qui veut visiblement vous dire autre chose.
Mais non, mais justement, c'est ça. C'est ce que tu étais en train de dire. Mais en fait, on va faire un petit jeu.
Ah bah vas-y.
Le mot réponse. Je te dis un mot à toi et Françoise, et vous me donnez la réponse.
Vas-y.
Alors, si je vous dis camarade.
Ah, le théâtre.
J'ai une petite
pièce de théâtre.
Voilà. Et ça se passe quand alors, cette pièce de théâtre? Le 3 avril?
Oui, c'est ça.
La maison de quartier de la Madeleine, c'est ça?
Oui, 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 c'est ça.
Et c'est une
pièce. À quelle heure?
À
20h. Et c'est une pièce qui est proposée par le Tangramme. Et on sera présent, effectivement.
Et le thème?
Le thème de la pièce, c'est l'engagement, et ça parle de gens qui s'engageaient.
Mai 68.
Voilà, qui se sont engagés en mai 68. Ça remonte un petit peu, mais le thème, c'est l'engagement militant. Donc voilà, il y aura une table d'Amnesty, comme on fait régulièrement avec le Tangramme. Et donc, tu nous rappelles la date, Mina?
Mercredi 3 avril, maison quartier de la Madeleine à 20h.
C'est ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme actualité locale? Continue ton
dans
quiz,
le petit
vas-y.
Jeu, alors je vais dire Conche.
Conche.
Ah, Conche, je sais pas, c'est trop loin, je suis pas au courant.
Ah bon?
Si, Didier,
alors,
tu m'en as parlé tout à l'heure.
Un deuxième mot, fréquence.
Ah, fréquence.
Ou fréquence, droits humains.
Ouais, voilà.
Donc, sur quel thème?
Le thème, c'est la discrimination et le harcèlement. Et c'est effectivement notre prochaine émission, Fréquence Droits Humains, qui sera donc le...
Jeudi 4 avril.
C'est bien. Le lendemain du théâtre, dis donc.
À 18h30.
Ben, on chôme pas, Amnesty, vous savez. Hein.
De 18h, l'émission, c'est de 18h à 19h30 en direct. Et l'émission, elle sera faite à partir d'où, à Conche? Françoise, tu le sais, tu l'avais noté tout à l'heure.
L'espace Méliseau.
Voilà. Donc en direct de l'espace Méliseau à Conche, c'est en plein centre-ville, c'est une association. Et vous pouvez venir assister à l'émission. Encore une fois, ce sont des émissions en direct et en public. Donc n'hésitez pas, si vous habitez à Conche, hein, on capte très bien Principe Actif à Conche. Si vous habitez à Conche, n'hésitez pas à venir à l'émission. Donc Fréquence Droits Humains, tu nous rappelles la date, Mina?
Jeudi 4 avril, 18h-19h30, c'est ça?
Oui, c'est ça.
À l'espace Méliseau.
Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on a encore comme actualité?
Miroir d'eau.
Miroir
d'eau. Ah oui, samedi.
Miroir d'eau. Je sais pas. Je donne ma langue au chat. Françoise, dis-nous tout.
Oui, mais ça sera samedi au miroir d'eau de 14h à 18h. Signature de pétition pour les femmes.
Voilà.
Et deuxième émission.
Prochaine émission?
Non, prochaine émission au mois d'avril.
La première alors.
Mardi,
deuxième
16 avril.
Mardi du mois alors. C'était ça mon indice.
Oui, c'est ça. C'est la prochaine émission de Fréquence Droits Humains, n'importe quoi. La prochaine émission d'Amnesty, c'est le 16 avril, effectivement, en direct sur l'antenne de Principe Actif. Enfin, j'ai ma langue à fourcher avec Fréquence Droits Humains. On vous rappelle quand même que Fréquence Droits Humains, c'est aussi des émissions consacrées aux droits humains, bien évidemment, mais qui sont différentes de ces émissions bimensuelles qu'on vous fait sur les campagnes d'Amnesty. Parce que là, comme on a encore un petit peu de temps, j'en profite pour rappeler aux auditeurs, puisque là, ce sont des émissions faites avec des participants locaux sur des thèmes qui touchent les droits humains, mais qui sont animés par des gens qui ne sont pas spécialement des militants, mais qui, à travers différentes problématiques, là, ce sera effectivement sur les discriminations et le harcèlement, et entre autres le harcèlement à l'école. Donc c'est intéressant d'en parler.
Ah oui?
Oui, c'est le harcèlement aussi à l'école, on va en parler. Et donc, l'idée, c'est de faire parler des gens dont, à travers des thématiques de droits humains, mais qui ne sont pas des militants et ce sont par rapport à ce qui leur arrive dans leur vie quotidienne. Donc on a parlé du droit au travail, on a parlé des droits des minorités sexuelles, on a parlé de droits humains et agriculture par rapport à l'écologie et la préservation de l'environnement, etc. etc. Et le but, c'est d'aborder tout à fait différemment la problématique des droits humains, pas du tout sur un aspect militant. Donc réécoutez les podcasts, hein, on en a quand même un certain nombre maintenant sur le site de Principe Actif, à la rubrique Fréquence Droits Humains. Et puis vous avez aussi nos podcasts, nos émissions bimensuelles là, sur les campagnes d'Amnesty, qui sont là dans la rubrique Amnesty, aussi sur le site de Principe Actif. D'ailleurs, on a tellement de podcasts sur le site de Principe Actif que je pense qu'on va changer le nom du site de Principe Actif, on va l'appeler site Amnesty International.
Non,
c'était une boutade. Voilà. Bon, on vous laisse l'antenne, on laisse l'antenne au laboratoire qui va s'installer bien gentiment. Il vient d'arriver, notre ami Manu. Et puis, donc on lui laisse la place. On se donne rendez-vous quand, on le redit, Françoise, pour l'émission d'Amnesty, la prochaine?
Mardi 16 avril.
Voilà, bonne soirée à tous, à bientôt.
Au revoir.
Bonsoir.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience,
et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.